Paul à Rennes. Contes et nouvelles de Provence. Chez une reine. Quand nous eûmes suffisamment contemplé les antiques, dressant au milieu des oliviers, sur la ligne bleue des Alpilles, leurs bas-reliefs et leurs statues que les soleils de 18 siècles ont revêtus d'une croûte d'or, après quelques réflexions, peut-être banales, touchant l'ironie du destin qui, dans cet endroit où fut une ville, n'a laissé debout, saisissante antithèse de la grandeur et du néant des gloires humaines, qu'un arc de triomphe et un tombeau, le peintre proposa de faire un petit crochet sur le chemin d'Arles et de nous arrêter un moment à la ferme des Muscadelles. Et pourquoi s'arrêter aux Muscadelles? Parce que j'espère trouver là, pour le tableau que je prépare, une de ces vieilles sonnailles en airain martelé, de forme si originale, avec leurs battants faits d'un os et leurs larges colliers de bois couverts d'arabesques, gravés au couteau, comme annon lorsqu'il marche à la tête des troupeaux transhumants, les boucs d'avant-garde. Tu achèteras ta sonnaille à la ville, chez le premier bourrelier venu. Je t'entends. Une sonnaille toute neuve, luisante et sans patine. Voilà qui serait aimable à peindre. Au surplus, c'est surtout au collier que je tiens, au collier en bois tarabiscoté que les bergers travaillent eux-mêmes. Eh bien, tu iras chercher ta sonnaille un autre jour. Si l'on t'écoute, nous n'arriverons jamais pour l'heure de la promenade. Et j'aime admirer, tu le sais, sous les grands platanes d'hélices illuminés par le soleil couchant qui tombe en Camargue, le galant va-et-vient des belles arlésiennes en costume. Le peintre réfléchit. Je crus un instant qu'il cédait. Mais rien n'est têtu comme un peintre. Arrangeons-nous autrement. La voiture peut me laisser à hauteur des Muscadelles. Je prendrai ma sonnaille et ferai le reste de la route à pied. Vous aurez tort d'ailleurs, car en fait d'arlésienne, j'en connais peu d'aussi charmante que la fille de maître Bermond, mademoiselle Bermondette.
Bermondette ?
Eh oui, Bermondette, dont tu connais les chansons, et qui fut tout d'une voix proclamée reine aux dernières fêtes que donnèrent les Provençaux. Reine ? En ces temps de bienheureuse égalité,
on n'a pas souvent occasion de saluer une reine.
Cette considération aurait suffi à nous décider. Et sans compter, ajouta le peintre astucieusement, sans compter que les habitants des Muscadelles sont les meilleurs gens du monde, et que maître Bermond a dans sa cave, pour les amis, du vin des vieilles vignes mortes, un vin comme on n'en fera plus. Nous voilà donc partis, au trot de nos deux camarguais, à travers la plaine, partout jaunissante, car c'était le temps des moissons. Des myriades de cigales, mises en gaieté par la chaleur du jour, s'égosillaient sur les arbres poudreux de la route, se taisant un moment au passage de la voiture, pour recommencer aussitôt de plus belle et rattraper le temps perdu. Et cette chanson partout sonnante, avec son rythme frénétique, son battement monotone de musique arabe, semblait sous les cieux incendiés être la voix même de la terre. Enfin, on arrive aux Muscadelles. Une ferme à grandes écuries, qui serait comme toutes les fermes, sans un perron bourgeois, en belle pierre blanche, encadrée de deux grands rosiers. Maître Bermond, en bras de chemise, nous accueille et nous prie d'entrer. Il apporte des verres, du vin. Il appelle sa femme et sa fille, Bermonde et Bermondette, s'excusant et les excusant. Car notre visite les a surprises en train de cuire la fournée de la semaine, comme en témoigne la pétissante odeur de pain chaud qui embaume toute la maison. « Alors, dit le peintre, nous allons goûter de la fougasse. Il n'y a rien de meilleur pour faire trouver le vin bon. » En effet, le temps de mettre la fougasse au four, et aussi, je pense, de remplacer par le large ruban brodé et la coiffette relevée en bonnet phrygien le mouchoir blanc du matin, coquettement noué sur le front en deux cornes blanches, et voici maman Bermonde et Bermondette qui apportent la fougasse fumante et mince, frottée d'huile fine et persillée de grains d'anis. On s'est évidemment pressé, et mademoiselle Bermondette a encore un peu, tel un fil d'argent qui sertirait un bijou rose, encore un peu de fleurs de farine autour des ongles. Exquise, la fougasse pétrie par ses mains petites et brunes. Exquises aussi les mélodies rustiques que ses mêmes mains éveillent sur le piano, tandis qu'au dehors, les grands cyprès qui, les jours de Mistral, se tordent si furieusement, et les haies de hauts roseaux gémissant sous la rafale avec un bruit de soie froissée, se dressaient immobiles, sans un frisson, dans l'air alangui. À ce moment, les chiens aboyèrent, et un homme apparut devant la porte ouverte. « Bonjour la compagnie. Excusez si je vous dérange, mais c'était pour savoir si vous auriez besoin d'un moissonneur. » « Entrez, l'ami. Vous tombez bien. Les épis sont lourds. La récolte presse. » Et l'homme entra. Un paysan timide et fier, avec sa faucille en croissant de lune, dont une baguette évidée cercle le tranchant, l'étui plein d'eau de sa pierre à aiguiser, et ses doigtiers luisants et jaunes taillés dans un nœud de roseau. On trinqua encore une fois pour sa bienvenue. « À l'amitié ! À l'amitié !» Puis nous partîmes, réconfortés du cordial accueil, le peintre emportant sa sonnaille qui était superbe, et nous, toute une provision de pastèques et de grenades, frécueillies, dont Bermond, Bermonde et Bermondette voulurent, malgré nos protestations, bourrer la voiture. À plusieurs mois de là, flânant de nouveau par ces parages, je me trouvai un jour, trimballé dans le char à bancs découvert, élevé au rang d'omnibus, qui dessert Gravesen et sa gare solitaire. Une élégante provençale, sans doute la femme de quelque marinier du Rhône, car elle portait comme agrafe à ses mousselines une sorte de galère en nacre, était montée avec moi. Pendant que le conducteur, vieux royaliste pétrifié qui, depuis la mort d'Henri V, ne veut plus parler qu'à ses bêtes, fumait sa pipe silencieusement, nous causâmes. Ma voisine était d'Arles, en effet, mariée à un marin de la Roquette. Elle allait à Gravesen embrasser son petit dernier et porter du sucre à la nourrice. « Et vous, monsieur, vous allez à Saint-Rémy ?»« Non, seulement à Mayenne. »« Chez monsieur Frédéric, alors ? Vous y verrez mon frère, qui s'y trouve depuis 3 jours. » « Ah, votre frère connaît Mistral ?»« Eh oui, Pécaire, ce n'est qu'un paysan. Son métier est de faire des murs de pierre sèche. Mais il sait lire, écrire, il a de bonnes manières, et alors, que voulez-vous, il fréquente des fois avec les gentilshommes. » Il fallait entendre, dans le gazouillant parler arlésien, la grâce orgueilleuse et charmante que prenait ce mot de gentilhomme, appliqué ainsi à un simple faiseur de verre. Et votre frère s'appelle ?
Tiston, tout simplement Tiston. Comme il faut que je m'arrête ici, vous lui donnerez bien le bonjour.
La mission me fut commode à remplir. Aussitôt arrivé, Mistral, avec sa gouailleuse bonhomie, me présente Tiston, le célèbre Tiston qui fabrique des chansons et des muraillettes et qui s'est même improvisé entrepreneur, bâtissant à perte la mairie de son village pour avoir la gloire d'y mettre sur la porte une inscription provençale de sa façon.
« Mais nous sommes de vieux amis, » répondis-je en tendant la main à Tiston que je venais de reconnaître. « Nous avons trinqué ensemble, il n'y a pas longtemps. » « Chez maître Bermond, au Muscadelle !» Comment ? Ce gueusard de Tiston était allé au Muscadel et il ne m'en avait jamais rien dit ?
Voyons, Tiston, expliquons-nous. Qu'allais-tu faire au Muscadel ?
Ben, j'étais allé comme ça, me louer en moisson.
Comme ça ? Alors, comme ça ? Un beau jour, l'homme tranquille, tu as pris ta faucille et tes doigtiers, tu as traversé la montagne, tu es parti au diable, en pays perdu, peut-être à 10 lieues de chez toi, le tout sournoisement, en cachant tes titres, ton nom, et tu voudrais nous faire croire que cette conduite est naturelle ?
Le brave Tiston était tout rouge sous le fin regard de Mistral.
Mais j'y pense. Il y a au Muscadel une héritière. Elle est charmante, Bermondette. Et qui l'épousera sera riche.
Avoue-le, Tiston. C'est pour elle que tu as passé la montagne. C'est pour elle que tu t'es mis au service de maître Bermond, comme fit autrefois Jacob chez le patriarche Laban.
C'est pour elle, et ce n'est pas pour elle. À vrai dire, j'avais bien entendu parler de mademoiselle Bermondette, surtout depuis que vous l'avez nommée reine. Alors, insensiblement, l'idée m'était venue.
Quelle idée, Tiston ? Insistait Mistral en riant d'un bon rire.
L'idée d'aller voir. Qu'est-ce que je risquais ? Le hasard est grand, et à ne pas sortir de chez soi, on perd quelquefois sa fortune. Mais personne n'a rien deviné au Muscadel. Comme mademoiselle Bermondette avait à peine l'air de me voir, j'ai vite compris qu'il n'y avait rien à faire. Alors, mon travail fini, mon compte réglé, je suis reparti bien tranquillement, sans rien dire. Pendant 15 jours. Oui, j'ai été triste, comme quand on se réveille d'un trop beau rêve.
Puis ça s'est passé tout seul, peu à peu.
On ne me devait rien. Pourquoi me plaindrais-je ? Les reines choisissent, et l'amour ne se commande pas. L'heureux et lumineux pays que ce beau pays de Provence, où les reines pétrissent leur pain, où Tiston, en élevant ses murs autour d'un champ, rêve d'épouser une reine, et où les femmes de mariniers, une galère antique au corsage, appellent naïvement et sans croire si bien parler les poètes des gentilshommes.